Se risquer dans le monde des jeux vidéo, ça n'est pas forcément une partie de rigolade. C'est même souvent une question de vie ou de mort.
Dans les années 80, le jeu vidéo est pointé du doigt comme étant un médium violent, abrutissant et dangereux pour la jeunesse. Pourtant, en 1989, un événement montre que cette situation évolue. L'acteur Robin Williams, qui est justement en train de cartonner dans le cercle des poètes disparus, donne à sa fille le prénom peu commun de Zelda. Eh oui, le jeu mythique de Nintendo, sorti 4 ans auparavant au Japon, a inauguré une nouvelle ère de reconnaissance pour le jeu vidéo. Et encore récemment, ce même jeu sorti il y a plus de 35 ans a servi de prototype au chef-d'œuvre de la Switch, Breath of the Wild. Comment un jeu si ancien peut-il encore être une référence aujourd'hui ? Dans les années 80, au milieu des titres orientés action hérités de l'arcade, Zelda joue sur le goût du mystère et de l'exploration. Cette nature si particulière, et plutôt nouvelle pour le jeu vidéo, tire ses origines de l'enfance de Shigeru Miyamoto, le fameux créateur de la saga. Et vous allez voir qu'ici, comme bien souvent, le réel a influencé le virtuel. Nous sommes en 1952 et le jeune Miyamoto naît dans le petit bourg de Sonobe près de Kyoto, où il passe toute sa jeunesse. Il est un garçon imaginatif qui s'adonne au dessin ou qui joue avec des marionnettes. Tout est prétexte pour échapper au réel, pour imaginer une vie d'aventure. Et tout ça dans une maison qui n'a pas la télévision. Eh oui, l'homme qui a révolutionné la façon d'utiliser des écrans a passé son enfance sans télé. Alors où a-t-il été chercher ses idées ? C'est un autre passe-temps qui lui a permis de découvrir les joies de l'exploration et qui a développé son imagination. De ses propres mots, Miyamoto aimait explorer les forêts entourant son village. Il part à pied ou à vélo pour de grandes balades. Il passe près de sanctuaires religieux traditionnels. Il explore les montagnes et les bois. Un jour, alors qu'il part dans sa quête de découverte, il trouve quelque chose. C'est une caverne, une sorte de grotte mystérieuse. Immédiatement, il a envie de la visiter, de braver sa peur pour l'affronter. Il se prépare quand même et revient, le lendemain, avec une lanterne. Son exploration prendra plusieurs jours. C'est le temps qu'il lui faut pour pousser toujours plus loin sa découverte. Il se voit comme un aventurier et il veut percer tous les secrets du lieu. Cette expérience, cette confrontation avec la nature, germera des décennies plus tard. Shigeru, devenu développeur de jeux, veut confronter les joueurs à l'inconnu à travers de nouvelles expériences vidéoludiques. Nous sommes en 1985 et Miyamoto, déjà bien installé chez Nintendo, a assisté à la création des designs de plusieurs jeux d'arcade comme Sheriff. Il a travaillé aux côtés de Gunpei Yokoi, célèbre créateur de la Game Boy, mais surtout, Miyamoto a déjà marqué la légende en créant le jeu d'arcade Donkey Kong, où un personnage fait sa première apparition. C'est Jumpman, que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Mario. Du coup, quand Nintendo lance la Famicom, c'est comme ça que s'appelait la NES au Japon, Miyamoto est nommé pour superviser la réalisation de deux jeux qui vont révolutionner l'industrie. Ils sont six à travailler sur ces deux jeux. Le premier est un jeu d'action linéaire où l'on contrôle un personnage dynamique qui court et saute sur la tête de ses ennemis, ce qui met les réflexes du joueur à l'épreuve. C'est Super Mario Bros. Le second est un projet qui va lui puiser dans les expériences de jeunesse de Miyamoto, de son envie de sortir du jeu d'action et de proposer un monde qui fait travailler l'imagination des joueurs, The Legend of Zelda. On a donc une équipe de 6 personnes, supervisée par Miyamoto, qui réalise l'exploit de développer deux projets aussi dingues que le premier Mario et le premier Zelda en même temps. Très vite, les deux projets vont s'influencer l'un l'autre, justement parce qu'ils sont très différents. Loin de l'action de Mario, Zelda veut proposer une échappatoire fantastique. Miyamoto dit « Je veux faire un monde d'épée et de sorcellerie, un jeu basé sur la chasse au trésor. » Il est au cœur du projet, et c'est sa vision qui va diriger la réalisation du titre. En plus de ses expériences de jeunesse et de ses découvertes dans sa grotte, il tape aussi dans d'autres références, comme le cinéma d'aventure ou le jeu de rôle. Si Mario est très linéaire, comme beaucoup de jeux de l'époque, Miyamoto veut s'en affranchir. Le scénario n'est pas accessible facilement, il est raconté par des bribes d'informations et des indices disséminés dans le jeu. Le but est de titiller la curiosité du joueur. Un monde mystérieux se trouve face à lui et la moindre grotte rencontrée donne envie de l'explorer. Bien sûr, vous pouvez lire le livret du jeu pour connaître l'histoire, mais c'est le joueur qui décide de la voie à emprunter, du chemin à parcourir. Chaque enfant, manette en main, façonne sa propre aventure, crée sa propre expérience et peut la partager. Tous les éléments sont hérités de l'enfance de Shigeru Miyamoto. Il affirmait en 2010 encore se souvenir de cette sensation lorsqu'il était dans une rivière et qu'il soulevait un caillou pour découvrir un poisson. Ça l'avait émerveillé. Quand on est adulte, on peut juger que c'est anodin, innocent, voire naïf, mais lui pense que c'est une expérience que les enfants devraient vivre aujourd'hui. Pour que ce soit possible, il faut un monde très grand, libre d'être exploré. Pour une aventure très longue, il faut créer un système de sauvegarde, inédit à l'époque. Bref, c'est un projet très ambitieux. Peut-être trop ambitieux pour le président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi. Pour lui, son nouveau designer en chef fait un pari extrêmement risqué. Face à ses réticences, Miyamoto va défendre corps et âme son projet. Il pense détenir la clé pour raconter une histoire d'une manière inédite. Il pense que les joueurs pourront même s'y épanouir. Et à force d'arguments, il parvient à convaincre tout le monde. Le jeu sort finalement le 21 février 1986 au Japon, et un an plus tard aux États-Unis et en Europe. Après de nombreux mois à travailler en tandem sur Super Mario Bros. Et Zelda, les jeux sont deux succès massifs. Le pari de Miyamoto est gagnant. Super Mario Bros. Va générer le nombre délirant de 40 millions de ventes dans le monde, ce qui va éclipser le succès de The Legend of Zelda. On estime qu'à la fin des années 80, 6 millions de Zelda ont été vendus. Du coup, on est loin de Mario, certes, mais c'est phénoménal déjà pour l'époque. C'est également un succès d'estime. Un an après sa sortie, les lecteurs de Nintendo Power le classent meilleur jeu de la NES. Les magazines plus généralistes, comme Computer Gaming World, sont également dithyrambiques. Ils y voient, pour le jeu d'aventure sur ordinateur, une transition sensationnelle vers la console de salon. Et c'est ainsi que The Legend of Zelda va devenir une grande saga du jeu vidéo, enchaînant les chefs-d'œuvre. Et enfin, c'est surtout sur le plan créatif que ce premier Zelda marque sa génération. En bousculant les codes établis du jeu de rôle, il inspire de nombreuses séries de la fin des années 90. Le magnifique Secret of Mana aurait été très différent sans Zelda. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Zelda est perçu par l'industrie comme une pierre angulaire du jeu d'aventure moderne. Hidetaka Miyazaki, créateur des Dark Souls, disait par exemple en 2016 que Zelda est un monument et qu'il se sent indigne de la comparaison entre l'œuvre de Miyamoto et ses propres créations. Zelda apparaît pour lui comme une sorte de manuel pour l'ensemble des jeux 3D. Un manuel pour tous les jeux 3D ? Peut-être, mais Nintendo n'a pourtant pas continué sur cette voie. La formule non linéaire de ce premier Zelda ne reviendra que 30 ans plus tard avec Zelda Breath of the Wild. Et quand il sort, il est à son tour une révolution qui marquera à jamais le genre des jeux en monde ouvert. Il est reconnu comme un chef-d'œuvre absolu et il est à ce jour le jeu le plus vendu de toute la licence. On y retrouve un monde énorme avec une histoire racontée par bribes, une liberté totale d'action et la possibilité de dénicher plein de secrets en soulevant des rochers dans les rivières ou en entrant dans des grottes. Et c'est tout de même fou de se dire que la recette ultime de l'open world était là, sous nos yeux, 35 ans en arrière. Mais peut-être que le plus fou dans tout ça, c'est que cette recette miracle découle en grande partie des expériences d'un enfant qui se promenait, rêveur, dans la forêt.
Retrouvez d'autres histoires sur JV ou sur YouTube @JVLegends.